Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ce lundi, RFI consacre une partie de ses antennes à la biodiversité. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure, à 10h10, temps universel, 7 milliards de voisins, qui s'intéressera aux solutions pour enrayer la chute de la biodiversité, comment réparer la nature. Ce sera avec Amélie Beaucourt. Ne manquez pas également Accent d'Europe, aux alentours de 19h10, temps universel, ou encore les nombreux reportages à écouter dans nos différents journaux, notamment celui tourné par Yaya Boudani à Ouagadougou. Il est notre correspondant. Correspondant au Burkina Faso, il a visité une ferme à une vingtaine de kilomètres de la capitale où l'on produit de la banane, de la papaye ou encore du concombre. Et dans cette ferme, eh bien, l'engrais chimique est interdit. Les exploitants de cette ferme nous raconteront justement comment ils travaillent au quotidien. Et vous aussi, auditeurs, vous contribuez ce matin à dresser un état des lieux de la dégradation de la biodiversité. Vos témoignages, 33 9 693 693 70. Juste avant le journal, rappelez-vous, Ali nous a appelé du Niger pour nous parler de la cohabitation qui était excellente entre les girafes et la population. Johan, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Libreville et vous avez une sorte de coup de gueule, puisque vous disiez que dans votre pays, au Gabon, il y a trop de moyens alloués pour la défense des éléphants et que, eh bien, à côté de ça, on n'aidait pas suffisamment les planteurs et les agriculteurs.
Bien sûr, parce que en réalité, si on veut lutter efficacement contre les dégradations de la biodiversité, il faut pouvoir mettre l'homme au centre de la question. Lorsque les éléphants s'invitent dans les villages pour détruire les plantations, ça crée une véritable paupérisation. C'est-à-dire que derrière, comme le disait notre premier auditeur, il disait qu'ils vivent de ça, ils envoient leurs enfants à l'école avec, ils se soignent avec. Vous vous rendez compte que quand les éléphants s'invitent pour la destruction massive de cette plantation, il n'y a plus véritablement de solution pour eux. Et donc, c'est l'incertitude totale qui s'installe.
Mais Johan, et je parle sous le contrôle de nos deux invités, Haïdar El Ali, ancien ministre de l'Environnement et de la Pêche au Sénégal, Olivier Mouchieté, directeur de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Quand vous dites qu'il faut mettre l'homme au centre de tout cela, excusez-moi, c'est quand même l'homme qui est allé empiéter sur le territoire des éléphants.
Je suis d'accord, Juan. Quand je dis mettre l'homme au centre de tout ça, c'est pour dire que là, je parle des villageois, je parle des personnes qui subissent effectivement les comportements de d'autres hommes. Donc, je vais faire un constat, c'est-à-dire que le conflit homme-éléphant au Gabon, il s'amplifie de jour en jour. D'ailleurs, il y a à peu près à 200 km de Libreville, un village qui s'appelle Yemaoulé, dont les populations ont totalement déserté. Parce qu'il y a une forte, effectivement, comme vous disiez, c'est quand même l'homme qui a l'origine, etc. Il y a une forte exploitation forestière qui désorganise totalement l'environnement des éléphants. Et à cause de ça, ils s'invitent régulièrement dans les villages.
Ouais. On va donner la parole à nos invités qui vous écoutent, à Haïdar El Ali, je le vois, il prend des notes. Qu'avez-vous envie de répondre à Johan ?
C'est vraiment malheureux, cette opposition entre l'homme et la nature. Et c'est malheureux parce que c'est vrai que l'homme doit être au centre du débat. Donc, il faut que ces populations survivent à leurs besoins. Et ça me ramène à cet équilibre dont je parlais tantôt, qu'il y a d'un côté de la planète des lumières qui sont allumées partout et de notre côté où il fait noir. Et c'est ça qui n'est pas normal. On pille nos ressources et après nos enfants prennent des pirogues. Il faut qu'on ait une autorité, comme tantôt un auditeur l'a dit, des autorités qui l'ont aidé à réintroduire les girafes, ces sources, parce que les forêts existent que parce qu'il y a des animaux qui dispersent les graines. L'éléphant joue le même rôle pour les renier, donc on doit protéger les animaux. Mais à côté de ça, je suis désolé, c'est une volonté politique forte qu'il faut. Moi, dans mon pays, on a quand même un ministre de l'Environnement qui va dans des réserves communautaires chasser des animaux hautement protégés pour en faire des barbecues. Et je dénonce cela.
Le ministre en personne ?
De l'Environnement.
Enfin, je vous pose la question. Le ministre en personne chasse des animaux protégé.
Complètement protégé, et malheureusement, il les poursuit même en Jakarta avec des mobilettes pour les terroriser, et après, il en fait du barbecue. Donc, il faut une volonté politique très forte, sinon, c'est la biodiversité qui disparaît. Pareil pour la ressource halieutique.
On aura l'occasion de parler des ressources halieutiques dans un instant. Olivier Mouchetté à Kinshasa, un mot sur les deux témoignages opposés d'auditeurs, celui de Libreville, celui du Niger.
Oui, très certainement. Bah, écoute, c'est vraiment très intéressant d'avoir ces témoignages qui viennent illustrer la problématique à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement. Hein. Il faut bien savoir qu'en République démocratique du Congo, l'Institut congolais de conservation de la nature, qui est donc une entreprise publique de l'État congolais, gère à peu près 80 aires protégées à l'échelle nationale, ce qui représente un territoire de 350 000 km², ce à quoi nous devons ajouter les zones tampons, c'est-à-dire des zones périphériques privilégiées des aires protégées. Et donc, l'un dans l'autre, nous avons à nous occuper de pas loin de 550 000 km². C'est les trois quarts de la France. Alors, inévitablement, dans un contexte pareil, on se retrouve à devoir gérer des conflits entre les hommes et les animaux, comme ça vient d'être illustré par nos deux témoignages du Niger et du Gabon. Nous sommes parfaitement capables de mettre en place des dispositifs qui vont permettre de dédommager les quelques rares, d'ailleurs, personnes qui sont malheureusement confrontées à des dégâts causés par des animaux. Nous sommes à Kinshasa ici en train de travailler là-dessus, donc on a pris langue déjà avec des compagnies d'assurance de manière à mettre en place un dispositif de dédommagement sous réserve évidemment que les personnes lésées aient été correctement identifiées,
oui,
et que les dégâts, eux aussi, aient été correctement évalués. Quoi. Donc c'est quand même tout un dispositif, mais ça fait partie de l'arsenal global que nous devons mettre en place pour assurer une gestion convenable de cet environnement. Parce que par ailleurs, nous l'avons bien démontré dans les discussions de ce matin, nous, hommes, avons besoin de cette biodiversité. Et pour nous permettre de mieux organiser la coopération entre l'homme et la nature, notre point de vue à l'ICCN, c'est de renforcer notre connaissance du monde vivant. Nous devons mieux connaître la nature dans laquelle nous vivons. Ça va nous permettre d'améliorer notre cohabitation, voire même d'ailleurs d'améliorer toute une série d'autres choses. D'abord, d'assurer notre sécurité alimentaire et même, espérons au bout de la ligne, de contribuer à lutter contre les changements climatiques. Quoi. L'amélioration de la connaissance du monde vivant, de là viendra les vraies bonnes solutions durables à long terme. Et nous y travaillons, car nous avons la chance ici au Congo justement d'avoir une volonté politique extrêmement forte, déjà donnée par le chef de l'État lui-même et embrayée par les ministres qui sont à la tutelle de l'ICCN,
en tout cas,
dont notamment le ministère de l'Environnement et de Tourisme.
Quand vous avez dit que les autorités justement impulsaient une vraie dynamique, Haïdar El Ali, je ne sais pas si ça s'est bien entendu, a dit bravo. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent suivre cette émission en ce moment sur la page Facebook de l'émission, donc elle est filmée, donc n'hésitez pas, page Facebook RFI appelle sur l'actualité. On va repasser au standard, il nous reste 12 minutes et le temps passe très très vite. Ousmane, bonjour.
Bonjour Juan.
Bonjour Ousmane, vous êtes en Casamance au Sénégal. Vous disiez hors antenne avoir eu l'occasion de rencontrer Haïdar El Ali puisque vous êtes président d'une association environnementale, c'est bien ça ?
C'est bien ça, c'est Casamance Horizon. J'habite le village de Niafran, c'est à l'extrême nord-ouest de la Casamance, Ali connaît très bien. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé bien avant qu'il soit ministre. Quand il parle des millions d'arbres reboisés en Casamance, j'en suis témoin, puisque nous l'avons fait ensemble, mon village.
Ousmane ? Ah, on a perdu Ousmane. Ah, c'est dommage. Ousmane qui avait envie de témoigner justement de cette dynamique impulsée par Haïdar El Ali en Casamance, justement pour sauver la mangrove sénégalaise. On va essayer de le rappeler dans un instant. Jean-Paul nous rejoint. Il est en Guinée. Il nous appelle de Cancan. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Anne, bonjour à vos millions d'auditeurs.
Et merci de nous appeler. Vous aviez envie de nous parler de la forêt de Ziama, Jean-Paul.
Bien sûr, je vous appelle de Diama puisque je suis ressortissant de là-bas. C'est une forêt classée à la Guinée et puis un patrimoine de l'UNESCO depuis 1980.
Oui.
Ça s'étend de jusqu'à 1161 km². C'est une grande forêt. Là-bas, on y rencontre beaucoup plus de 1300 à 5000 espèces animaux où on rencontre déjà. Donc, c'est vraiment un grand privilège d'y en avoir. Mais les populations environnantes qui sont là-bas sont confrontées au braconnage, aux cultures intensives qui font que la forêt est détruite chaque année, malgré la présence des agents des eaux et forêts pour protéger la forêt. Mais le gouvernement ne met pas en place une grande politique afin d'assister les paysans qui sont là à fertiliser les terres non fertiles pour ne pas qu'ils fassent détruire les forêts. Parce qu'il y a la cohabitation aussi un peu avec les animaux qui sont là, les éléphants. Vous-même, vous avez vu les images que j'ai envoyées, les enfants qui cohabitent généralement avec les éléphants qui y viennent. Mais lors de leur passage dans les champs cultivés, ils viennent détruire presque tout. Ça cause de sérieux problèmes. Il y a certains paysans par nervosité peuvent prendre même leurs armes pour tirer sur certains éléphants qui viennent pour détruire leurs plantes.
Donc ce que je comprends, c'est que dans cette forêt qui est quand même la plus importante des forêts humides d'Afrique de l'Ouest, il y a énormément d'espèces de plantes, espèces animales, mais pas suffisamment de moyens mis à la disposition des populations pour préserver cette biodiversité. Et deux, pas assez de gendarmes, ou en tout cas de responsables pour lutter contre le braconnage. On me dit qu'on a retrouvé Ousmane, on a rétabli en tout cas la liaison téléphonique. Ousmane.
Oui, Juan.
Donc on a bien compris que voilà, vous avez replanté énormément pour sauver la mangrove sénégalaise, notamment en partie grâce à Haïdar El Ali. Vous souhaitiez nous interpeller notamment sur un point très très précis qui concerne votre village, Niafourang.
Tout à fait. L'autre point, c'est que, comme je l'avais décrit tantôt, une zone paradisiaque avec un écosystème exceptionnel. Nous avons une forêt de mangrove avec les produits halieutiques et tout. Nous avons une forêt normale avec des arbres fruitiers et tout. Et nous habitons sur une dune qui est censée ralentir ou quand même freiner la montée des eaux. Et là, en même temps, c'est une aire marine protégée. Du coup, depuis 2004, il y a une autorisation d'exploitation du zircon sur cette dune. Et en même temps, c'est une aire marine protégée. C'est comme si tu donnais une autorisation de coupe de bois à des bûcherons dans une forêt classée.
Ah oui, effectivement. Le zircon, c'est un minerai qui est utilisé dans l'industrie nucléaire, dans l'industrie automobile. Et effectivement, si on exploite ce minerai, on détruit la dune et c'est une catastrophe pour l'écosystème casamancé, Haïdar El Ali.
Tout à fait, tout à fait. Ce que Ousmane a oublié de dire, c'est que cette dune protège des milliers d'hectares de rizières qui sont plus bas que le niveau de la mer. Cela veut dire que s'il y a une brèche là, c'est tous ces champs qui sont détruits. Et je salue la volonté des populations de Niafran qui ont farouchement lutté contre la présence de cette multinationale qui voulait exploiter le zircon. Mais salue aussi Jeannette Colly, Élise, et beaucoup de gens qui, un peu partout aujourd'hui, prennent conscience qu'il faut aider l'environnement. Et Jeannette Colly produit des pépinières d'arbres, Souleymane Fall vers Kaolack, pareil. Et ils sont de plus en plus nombreux à aider l'environnement. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit accompagné par une volonté politique très forte.
Oui, bien sûr. Il nous reste 5 minutes. Un dernier témoignage, dernier commentaire ce matin, celui de Souleymane. Bonjour.
Oui, bonjour Juan. Bonjour aussi à tous nos nombreux auditeurs et aussi à nos deux grands maîtres, Haïdara et
Olivier Mouchété à Kinshasa. Sur quel point souhaitez-vous nous interpeller, Souleymane, vous qui êtes à Bobo-Dioulasso, au Burkina?
Ok, oui, je voulais parler un peu des effets de l'orpaillage contesté sur la biodiversité. Mmh. Et en effet, on assiste aujourd'hui à un nombre important de ces contestins-là qui ne se cachent même plus, avec la multiplication de ces sites d'orpaillage dans notre pays. Bon, vous savez aussi, avec les problèmes que notre pays connaît, nos frontières qui sont devenues un peu poreuses là, et il y a ces produits hautement toxiques là, qui rentrent de façon frauduleuse, surtout le cyanide, et pour l'extraction de leur
C'est-à-dire qu'il y a des produits chimiques comme le cyanure qui sont donc utilisés par les orpailleurs.
Oui, ce produit-là, il est très dangereux. Et parce que lorsque nous partons sur ce site-là après pour vérifier ce qui se passe, vous voyez que plus le pousse après l'orpaillage. Voilà, les plantes, les poussées, ne parlons pas des animaux bon, qui vont mourir lorsqu'ils arrivent là-bas.
Évidemment.
Et on en a pour preuve, bien sûr, en 2011... Vous avez au niveau du nord du pays, on a un camion qui s'est renversé avec du cyanure. Bon, le ministre en son temps avait dit que ça a été maîtrisé, mais bon, deux ans après, en 2013, on a constaté...
Donc il y a eu des dégâts avérés. Souleymane, le réseau se dégrade, la ligne se dégrade peu à peu, malheureusement, mais on a compris l'essentiel. Haïdar Elali, quand vous entendez justement ce témoignage précis, problème d'orpaillage, on utilise du cyanure, on utilise du mercure également. On sait que le cyanure est mortel. Et en même temps, l'orpaillage permet à des milliers de personnes de vivre.
Oui, tout à fait. Surtout que ces milliers de personnes, ils voient des grosses multinationales qui creusent de grands cratères et qui exploitent cette richesse. C'est vrai que l'orpaillage artisanal utilise du cyanure et du mercure, et ce cyanure et ce mercure finissent dans les nappes phréatiques.
Dans les eaux souterraines.
Tout à fait. Ces eaux sont polluées. Et il y a même de plus en plus de malformations dans les naissances de bébés dues à la responsabilité de cette pollution.
Alors que faire justement? Quelle solution? Comment concilier cette exploitation et le respect de l'environnement, Haïdar Elali? Et ce sera votre mot de la fin.
Je pense toujours à cet équilibre et à ce partage des ressources. Il n'est pas normal d'observer des multinationales qui ont quasiment tous les droits parce que, soi-disant, je dis bien soi-disant, qui respectent des normes écologiques, ce qui est complètement faux, puisque eux-mêmes utilisent le cyanure, le mercure. Il faut un partage des richesses, que ces populations se retrouvent dans un environnement social, économique, équilibré. Sinon, ce n'est pas possible.
Olivier Mouchete, à Kinshasa, le mot de la fin, vous avez deux minutes.
Oui, ben écoutez, moi ce que j'ai plaisir à dire, c'est que fort heureusement en République démocratique du Congo, nous avons un arsenal législatif qui est très bien fait pour protéger la nature, conserver la biodiversité. Donc en fait, notre mission consiste essentiellement à rétablir l'autorité de l'État, à faire appliquer la loi par les uns et les autres. Et la loi, elle est très claire, on ne creuse pas des trous dans nos aires protégées, que ce soit pour chercher de l'or ou faire du braconnage. Et c'est notre travail avec nos équipes et tous faire nos meilleurs efforts pour faire appliquer la loi.
Olivier Mouchete, sans vouloir polémiquer, surtout qu'il nous reste une petite minute, vous dites on fait tout pour lutter contre le braconnage. Le braconnage reste une réalité dans votre pays, parc des Virunga par exemple, où la population est confrontée à ce problème.
Oui, aujourd'hui, le braconnage sur Virunga n'est pas le problème numéro un. On a eu un collègue tout à l'heure qui est intervenu au sujet de l'Ituri. Les deux provinces, Ituri et Nord-Kivu, sont aujourd'hui en situation de guerre et gérées par des militaires. Donc c'est une situation tout à fait exceptionnelle, dramatique pour l'environnement et dramatique pour les humains. Fort heureusement, sur les 27 provinces, il n'y a que ces deux-là qui sont confrontés à ce genre de problème. Mais les grandes difficultés que nous avons à grande échelle, c'est très certainement l'orpaillage et la transhumance des troupeaux de vaches qui migrent à travers l'Afrique entière.
Merci.
C'est deux grands sujets.
Merci infiniment. Je suis obligé de vous interrompre. On arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission. Il y avait d'autres auditeurs évidemment qui souhaitaient prendre la parole. Bonne journée à Kinshasa, Olivier Mouchete. Je rappelle que vous êtes le directeur général par intérim de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature. Haïdar Elali, merci infiniment d'être venu dans ce studio. Ancien ministre de l'environnement puis de la pêche au Sénégal. Infatigable défenseur défenseurs de l'environnement. Continuez, Haïdar El Ali. Je sais qu'il n'y a qu'un mot, sur lequel vous insistez, c'est l'action. Action. Il faut de l'action. Action. Demain, on parlera de l'Union africaine. L'organisation vient de fêter ses 20 ans. Quel bilan peut-on dresser? Quel rôle peut encore jouer l'Union africaine? On en parle demain matin. Bonne journée.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.